Dans ma bibliothèque, j'ai un gros bouquin comme ça qui s'appelle La Bible de l'humour juif. C'est ma deuxième Bible. C'est écrit par un rabbin qui s'appelle Mark Anawaknin et qui a recensé, qui a collecté tout un tas d'histoires juives. Et donc, j'introduis ma petite histoire comme ça en vous disant, attention, je vais vous raconter une blague. C'est pour que quand vous entendez la chute, vous rigoliez. Ça me rassurera. C'est l'histoire d'un juif qui est au chômage. Il va voir son rabbin et il lui demande s'il n'a pas un petit boulot à lui confier. Le rabbin lui propose de se tenir aux portes de la ville et d'attendre le Messie. Oui, tu attendras le Messie, comme ça, dès qu'il arrive, tu iras prévenir tout le monde. Alors le chômeur, il n'est pas très content de la proposition du rabbin, parce qu'il sent bien qu'il risque de ne jamais être payé. Mais le rabbin lui dit: si, si, tu peux être heureux. Au moins, tu as la sécurité de l'emploi. L'Avent, c'est la préparation de Noël. C'est l'attente du Messie, l'attente de sa naissance. Nous faisons mémoire de cette attente parce que nous croyons que le Messie est venu. L'Avent, c'est l'occasion de nous demander ce que ça signifie d'attendre un Messie. Le Messie, c'est une notion qui a beaucoup évolué au fil des siècles. Israël a connu plusieurs Messies. Par exemple, au chapitre 45 du livre d'Ésaïe, le prophète qualifie Cyrus, l'empereur perse. Cyrus est qualifié de Messie. Cyrus, c'est celui qui a mis fin à l'exil à Babylone, donc c'est au VIe siècle avant notre ère, en autorisant les Judéens à retourner sur leurs terres et à reconstruire leur temple. Le passage d'Ésaïe 11 qu'on a lu tout à l'heure est lu et compris par les traditions bibliques comme faisant référence au Messie qui doit venir. Il est décrit comme vertueux, juste, capable de juger et de punir ses ennemis. On dit qu'il dirigera la nation avec rigueur et sévérité, et que le peuple en sera heureux. On dit qu'il apportera une paix incroyable, au point que nous verrons le lion manger du fourrage avec le bœuf. On voit là se dessiner la figure d'un homme providentiel, c'est-à-dire un homme duquel on attend que tous nos problèmes soient réglés. Et moi, je vous avoue que cette annonce prophétique me laisse songeur. Messie, c'est un terme qui est peut-être un peu compliqué pour nous aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'un prophète a mis de l'huile sur la tête d'un personnage dans le but de le consacrer à une mission particulière. Le terme de Messie est associé aux prêtres, aux rois et aux prophètes. Tous ces gens étaient oints au moment de leur investiture et on dit que l'Esprit de Dieu descendait sur eux au moment de l'onction. Ce n'est qu'après l'exil à Babylone que le terme de Messie a pris une connotation de sauveur idéalisé, censé rétablir la royauté perdue. Je vous rappelle que Messie, oint, Christ, ce sont des mots qui désignent la même réalité. Il s'agit d'une personne désignée par Dieu pour réaliser une œuvre décisive dans l'histoire du peuple d'Israël. Avec Ésaïe, on voit un peuple en grande détresse, qui attend un Messie qui soit leur homme providentiel, un Messie qui serait un roi sauveur et vengeur de l'honneur national. Le prophète Samuel avait, longtemps avant, mis le peuple en garde quand le peuple a désiré avoir un roi. Dieu sait que quand un être humain prend le pouvoir, ou est dans une position de pouvoir, Dieu sait qu'il en abuse. Dans 1 Samuel 8, il prévient que le roi réduira le peuple en esclavage. Et il dit: alors vous vous plaindrez au Seigneur à cause du roi que vous serez choisi, mais le Seigneur ne vous répondra pas. Dieu semble donc ne pas trop apprécier l'organisation politique, même s'il accepte, peut-être par principe pédagogique, que son peuple se dote d'un roi. Quand je regarde le monde politique, je me dis que personne n'est à la hauteur de nos désirs collectifs. J'ai l'impression que les abus nous ont désabusés. Et d'un autre côté, j'entends aussi des gens qui veulent introduire ou réintroduire un peu d'espoir et qui proclament « Non, les politiques ne sont pas tous pourris ». Des gens qui veulent y croire parce que ne plus y croire serait sombrer dans le désespoir. Alors pour schématiser, je vois d'un côté des personnes qui sont désabusées et qui n'attendent plus grand-chose des politiques, et de l'autre, des personnes qui veulent y croire envers et contre tout, quitte parfois à nier la réalité des problèmes. Bon, d'accord, je caricature. Mais je sais que quand nous sommes dans des temps troublés, quand nos sécurités sont remises en question, nous en venons à espérer qu'une personne forte avec une grande autorité prendra la situation en main. J'ai l'impression qu'autour de moi, plus en plus de personnes veulent des chefs qui décident à notre place, des chefs qui savent ce qui est bon pour nous, des gens à qui nous n'aurions qu'à obéir pour que notre vie soit meilleure. Ils nous font un leader, un meneur, un homme quoi, un vrai. Ce genre d'attente me fait peur. L'histoire nous montre que les humains, quand ils ont le pouvoir, n'ont pas nécessairement la vertu que le pouvoir exige. Quand les intérêts personnels passent avant les intérêts publics, quand les lois protègent les intérêts des copains, moi je doute qu'on puisse encore parler de bien commun. Mais la Bible nous l'avait dit, d'abord, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Il n'y a donc aucune raison pour que la personne au pouvoir soit plus juste que moi, que nous, plus vertueuse. Ça, c'est un principe de réalité. On dit, hein, nous avons les dirigeants que nous méritons. Et d'un autre côté, Jésus, en Matthieu 20, dit « Vous savez que les chefs des peuples les commandent en maître et que les grands personnages leur font sentir leur pouvoir, mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. » Ce que second traduit par « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. » On retrouve ici la critique dont j'ai parlé tout à l'heure en Samuel. Les chefs que nous attendons ne seront jamais à la hauteur de l'exigence de justice que Dieu attend et que nous aussi nous attendons. Est-ce que ça veut dire qu'il faut délaisser la question politique ? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous pourris, comme on l'entend dire ? Je crois qu'il ne faut pas trop vite évacuer cette question. Il faut l'écouter, l'étudier, parce que la Bible, je crois l'avoir montré, porte cette question avec honnêteté et lucidité. Mais surtout, il faut penser cette question à partir de l'Évangile. L'Évangile qui nous donne plus que de l'espoir, il nous donne l'espérance. Mais qu'est-ce que ça signifie de dire que l'Évangile nous donne de l'espérance devant ce constat que socialement, politiquement, écologiquement, économiquement, l'étau se resserre et qu'on ne voit pas de solution? Est-ce qu'on est invité à croire dans des chimères? Est-ce qu'on doit jouer les bisounours? Les premières communautés chrétiennes ont relu l'histoire de Jésus à l'aune des Écritures, désignant leur maître comme étant le Messie qui devait venir. Il est venu dans des conditions très précaires selon le récit chrétien. Un bébé, né dans une étable, dans un foyer fragile. C'est peut-être pour ça que les Judéens de l'époque ne l'ont pas reconnu. Ils attendaient l'homme providentiel. Et pour moi, Jésus-Christ était vraiment le Messie attendu. Et pourtant, la paix promise n'est pas arrivée. Le loup ne dort toujours pas avec l'agneau. Et Jésus, le Messie, n'a pas exterminé les méchants. Au lieu de ça, il nous a révélé que nous sommes tous et toutes méchants et méchantes. Et que nous sommes tous et toutes placés sous le sceau de la grâce. Les mauvaises personnes que nous sommes sont graciées et avancent sur un chemin de transformation. Par conséquent, l'extermination des méchants, telle que le texte l'a décrit, risque de ne pas avoir lieu. Il me semble qu'elle a lieu autrement, par notre transformation. C'est peut-être pas le méchant qui est exterminé, c'est, je l'espère, la méchanceté en nous. Et le Messie n'a pas résolu nos problèmes politiques, mais il s'est attaqué à la dynamique du péché. Et surtout, je trouve que Jésus n'a pas été un chef impitoyable. Il s'est fait notre serviteur en allant jusqu'au service de sa mort. Jésus-Christ, vrai Messie, a cassé l'image que nous nous faisions de l'homme providentiel. Le Messie est décrit comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Sur lui repose la colombe. Il prêche le pardon, la grâce et l'amour. Il nous délègue des responsabilités, ayant pris sur lui ce que nous étions incapables de réaliser. J'aime me rappeler que chrétien signifie petit Christ, c'est-à-dire petit Messie. Qu'avec son esprit, nous marchons à sa suite. Et j'aime me dire qu'au fond, le programme messianique, qui prévoit une paix incroyable, doit être initié par le peuple de Dieu. Nous, qui constituons une partie du peuple de Dieu dans le monde, nous avons l'Esprit du Seigneur sans cesse avec nous. Et là, je reprends Ésaïe 11. L'Esprit qui donne la sagesse et le discernement, l'aptitude à décider et la vaillance, l'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. Il nous inspirera d'honorer le Seigneur. Nous ne jugerons pas selon les apparences. Nous ne déciderons rien d'après les racontars, mais nous rendrons justice aux défavorisés. Nous serons justes pour les pauvres du pays. Voilà ce que j'aimerais nous voir devenir, à l'image de notre Messie. Parce qu'alors, nous commencerons à vivre une paix incroyable dans le respect de la création. Plutôt que de chercher un homme providentiel, je vous invite à rester vigilant et vigilante et à questionner les pouvoirs. Nous avons pour tâche d'interpeller toute personne en situation d'autorité pour l'inciter à être plus juste. On le voit dans les évangiles, Jésus ne prend pas le pouvoir, il refuse le pouvoir que les gens veulent lui donner. Mais il n'hésite pas à questionner les gens en autorité. Il ne s'agit pas d'être des donneurs et des donneuses de leçons. Il s'agit d'avoir conscience que nous sommes, tous et toutes, des personnes injustes et graciées. Et si nous sommes nous-mêmes en situation d'autorité, c'est vraiment pas une tâche facile, quoi. Et là, nous sommes invités par l'Esprit de Dieu à être à l'écoute des plus démunis pour chercher des solutions qui leur permettent de vivre mieux. Nous sommes invités à mettre en place tout ce qui peut faciliter les conditions d'une paix durable. Et nous devons avoir conscience que s'il n'existe aucune solution qui soit parfaite, nous devons néanmoins essayer, parce que c'est une manière concrète d'aimer son prochain comme soi-même, que de modifier les conditions de vie des gens. Alors en ce deuxième dimanche de l'Avent, je nous invite à déposer aux pieds de Dieu notre attente d'un homme providentiel. À remplacer cette attente par l'image de Dieu en nous, sa douceur, sa bienveillance et sa miséricorde. Il est le Dieu du dialogue, de la parole et de la relation. Le Dieu pauvre, faible et patient. Le Dieu de la vie vivante et vivifiante. Le Dieu de la résurrection, le Dieu de l'espérance. J'aimerais que nous prenions vraiment, en tant que peuple de Dieu, nos vies en main, avec responsabilité et que nous devenions le changement que nous voudrions voir advenir, qu'ensemble, nous devenions un peuple providentiel, courageux en amour et distributeur de grâce, capable de permettre à chacun et à chacune de trouver sa place pour la gloire de Dieu. Parce qu'à mes yeux et à la suite du Messie, l'homme providentiel, c'est nous, ensemble. Amen.